Chers auditeurs et auditrices, bienvenue.
C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons dans cette nouvelle émission Web2R, en direct depuis le hall du collège de la Côte des Deux Amants de Romilly-sur-Andelle.
Cette émission est totalement réalisée par les élèves de 4C et 4D du collège avec nos enseignants Madame Grandpierre, Madame Bezot, Madame Bourdalet et avec les conseillers avisés de Madame Ancena, journaliste à Globule.
Cette émission est le fruit d'un travail mené tout au long de l'année sur les thèmes de la solidarité, du harcèlement et également de l'égalité entre les filles et les garçons avec toutes les difficultés que cela implique. Préjugés, discrimination.
Au programme, des interviews, certaines en direct, d'autres enregistrées, des portraits, des lectures et quelques surprises.
Et c'est parti.
Bonjour, nous allons vous parler maintenant du thème de la solidarité.
Pour cela, nous avons interviewé Madame Bailleul, la présidente des Restos du Cœur de Romilly-sur-Andelle.
Cette interview est à lire dans le numéro 3 du Romilly Express.
Elle nous rejoindra sur le plateau pour nous apporter des précisions et répondre à des questions complémentaires.
Nous avons aussi interviewé Monsieur Loiseau, président de l'association Loiseau Bleu. Ensuite, des membres du Club Santé nous rejoindront sur le plateau.
Et pour finir, nous écouterons une description d'image.
Web2R.
Bonjour Madame Bailleul et merci d'être parmi nous. Vous êtes responsable du centre des Restos du Cœur de Romilly-sur-Andelle et c'est la deuxième fois que vous venez dans notre collège cette année puisque vous êtes déjà venu répondre à nos questions pour le journal de Romilly-Express.
Oui, je suis déjà venue vous répondre à vos questions. Ça a été très constructif, il y a eu beaucoup de questions, vous avez été très attentifs. Et c'est avec plaisir que je suis venue vous rejoindre aujourd'hui.
Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est l'association des Restos du Cœur?
Alors l'association des Restos du Cœur a été créée il y a une trentaine d'années par Coluche, qui avait eu une petite idée, comme il a énoncé sur les antennes d'Europe 1. Il pensait faire ça pour un hiver, pour aider ponctuellement les gens. Et il faut penser que maintenant, c'est la 33e année que l'association aide les gens qui en ont le plus besoin pour se nourrir, pour se loger éventuellement. On peut les aider pour ça. Et voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est fait 33 ans que nous aidons, avec bon cœur, avec générosité, on espère.
Pouvez-vous nous faire un bilan de la saison d'hiver qui vient de passer ?
Alors la saison d'hiver 2017-2018 a été on a eu un petit peu plus de familles à accueillir du fait de la précarité un petit peu ambiante et c'est triste que tous les ans nous ayons un petit peu plus de personnes. Principalement l'augmentation vient beaucoup des retraités qui ont un petit peu moins d'argent. Les retraites sont petites. Et la vie est très chère, donc c'est un petit peu ennuyeux sur ce point de vue-là, parce que comme les retraités, c'est un peu catastrophique. Ils ont travaillé toute leur vie et maintenant ils sont obligés de venir nous voir. C'est un peu triste.
L'association a-t-elle rencontré des difficultés cet hiver ?
Alors des difficultés particulières, non. Je ne sais pas ce que vous entendez par particulière. On a eu quand même pas mal de marchandises qui nous arrivent, des dons que les gens font au Resto du Cœur. Il y a le spectacle des Enfoirés que vous connaissez sûrement tous. Tout ce qui est merchandising derrière, la vente des t-shirts et tout ça, ça fait des CD, ça rapporte énormément d'argent. Et c'est avec ça qu'on peut acheter la nourriture que l'on peut redistribuer. Et nous avons aussi les magasins de la vallée qui nous aident en nous donnant toutes les semaines les marchandises à date courte, c'est-à-dire 3-4 jours, ils ne peuvent plus les vendre. Donc ils nous les donnent et nous, on les distribue aussitôt aux gens. Donc c'est quand même un panel de marchandises assez important en produits frais qui est assez important. Donc au niveau des difficultés sur le point de vue alimentaire, là cette année, je pense que ça s'est bien déroulé, on va dire.
Comment nous, les collégiens, pouvons-nous aider votre association ?
Alors, comment vous pouvez nous aider ? Bah, écoutez, déjà, vous pouvez venir nous voir. Je sais que nos horaires coïncident pas avec vos horaires à vous, Mais pendant les vacances, il n'y a aucun souci. Nous, on est ouvert tous les vendredis de 13h30 à 16h30. Si vous voulez venir nous voir comment ça se passe et nous donner une petite aide ponctuelle pendant les... On ferme pas du tout. Hein. Le centre des Restos du Cœur de Romilly reste ouvert toute l'année. Deux fois la semaine l'hiver et une fois la semaine l'été. Donc de 13h30 à 16h30, vous pouvez venir nous voir, on vous expliquera, vous pouvez nous donner un petit coup de main. On a aussi des camions à décharger qui nous prennent deux tonnes de marchandises le mercredi. Donc s'il y a des garçons qui ont des gros bras, on les prend, hein, sans problème, ils peuvent venir nous aider, il n'y a pas de souci.
Merci Madame Bayeul d'être venue répondre à d'autres questions et à bientôt sur Web Désert.
Vient de paraître dans les salles.
Vous y trouverez des articles inédits des 4C et des 4D. Lisez-le vite.
La petite musique que vous venez d'entendre est le jingle qui annonce une description d'image et vous l'entendrez plusieurs fois dans l'émission. En effet, nous avons recherché des photos et des affiches en rapport avec les thèmes abordés dans l'émission et qui nous ont émus ou amusés.
Photographie que nous allons vous décrire est issue du périodique Le Monde des Ados numéro 306.
La photo représente une famille pakistanaise. Au premier plan, on peut voir une famille de 5 personnes. D'un côté, il y a 2 filles. La maman et sa fille sont habillées en sari, la tenue traditionnelle. De l'autre côté, nous pouvons voir 2 garçons, le papa et un de ses fils. Le deuxième fils, plus jeune, est du côté de la maman. Les garçons sont habillés en chemise et en pantalon.
À l'arrière-plan, on peut voir une haie fleurie avec de belles fleurs roses et violettes. La famille pose devant cette haie de fleurs et se tiennent tous. Ils semblent tous soudés, unis peut-être par leur passé.
Nous aimons beaucoup cette photographie car ils ont l'air heureux, libérés. Ils nous inspirent la confiance et la solidarité.
Bonjour, nous allons parler de l'association L'Oiseau Bleu qui intervient dans le domaine de l'autisme. Nous avons même eu la chance d'interviewer Monsieur L'Oiseau, le président de l'association. Je vais laisser la parole à Émilie et Mathéo.
Alors l'autisme, je vais essayer de faire bref.
Pour commencer, nous allons demander à Monsieur L'Oiseau ce qu'est l'autisme.
On parle souvent sous 3 volets. Alors il y a le premier volet, c'est des troubles de communication. C'est-à-dire ça peut être des enfants ou des adultes qui ont des problèmes à communiquer, à interagir avec les autres. Voilà, ça peut être déjà ça, la grosse famille. Ensuite, il y a un problème dans les interactions sociales. Alors ça, c'est un peu un gros mot, mais les interactions sociales, c'est le rapport qu'on a à l'autre. C'est-à-dire qu'il peut y avoir de grandes difficultés pour les enfants et les adultes autistes à essayer justement d'aller vous chercher, à entretenir une discussion avec vous. Ça peut être assez compliqué. Et ensuite, il y a un troisième volet qui est assez important, c'est des stéréotypies. Alors des stéréotypies, ça peut être des gestes répétitifs qu'ils peuvent faire à longueur de journée pour se rassurer, etc.
Alors, ensuite, il nous a parlé de l'aide concrète qu'il apporte aux familles.
Alors concrètement, je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais concrètement, c'est l'aide du soutien financier, ça peut arriver, ça peut passer par là. Moi, j'œuvre dans plusieurs commissions, alors des commissions départementales, régionales, justement, pour essayer de porter la voix des familles au sein des institutions, parce qu'ils sont souvent assez loin de cela. C'est porter des dossiers, parce que... La vie aussi d'une famille d'enfants autistes, c'est beaucoup, beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de papier pour essayer de faire valoir leurs droits. Donc nous aussi, on œuvre là-dessus. Mais c'est aussi beaucoup de pédagogie. C'est-à-dire c'est pour ça que j'ai répondu favorablement à votre invitation, parce que dans les collèges, vous êtes les adultes de demain. Et c'est vous qui ferez,
le
handicap de demain. C'est-à-dire que si vous avez déjà une bonne perception, qui n'est pas erronée de l'autisme, vous allez appréhender les autistes d'une manière différente.
Pour terminer, il nous a fait part de sa définition de la solidarité.
Ça, c'est notre salaire. Ça. C'est notre salaire, de voir des enfants heureux et des enfants différents heureux. Et ça, c'est pour moi, c'est ça, la solidarité. La solidarité, c'est mettre nos compétences de capitalistes, de gens qui n'ont pas de soucis, au service de ceux qui en ont des soucis. Parce que on va aider les gens qui ont un handicap, les gens qui ont une différence, mais on peut aussi aider les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui n'ont pas à manger, les gens qui n'ont pas de logement, et tout ça s'inscrit dans une immense chose qui est la solidarité. La solidarité, je pense que ça doit être au cœur de nos préoccupations à tous. Je vous le dis maintenant parce que je suis un convaincu. Il y a quelque temps, je vous aurais peut-être pas dit ça. Je vous aurais dit faites de l'argent et puis faites de l'argent. Voilà. Maintenant, je pense vraiment différemment et je m'épanouis 10 fois à 20 fois plus maintenant que j'ai ce que j'ai pu m'épanouir par le passé. Voilà, pour moi, c'est ça la solidarité.
Un nouveau numéro du Romy Express vient de paraître dans les salles.
Vous y retrouverez des articles inédits des 4C et des 4D. Lisez-le vite.
Bonjour Madame Bettencourt, vous travaillez à l'espace des Deux Rives de Pitre. Vous intervenez au club santé de notre collège avec notre infirmière scolaire, Madame Morel. Nous avons également sur notre plateau Naïm et Louise, des élèves du club santé. Je vais donc laisser le micro à Juliette.
Ouais, 2R.
Bonjour.
Bonjour. Alors, excusez-nous, Louise ne sera pas là aujourd'hui.
Du coup, oui, je vais me présenter. Je m'appelle Aurélie Bettencourt, j'interviens au club santé co-animé avec Madame Morel, Marie-Hélène, qui est l'infirmière du collège. C'est un atelier qui a lieu une fois par semaine, c'est un atelier de prévention et de promotion à la santé. Donc c'est un atelier ouvert à tous les collégiens, où on est là pour parler et mener des actions diverses autour de la santé, donner le savoir à tous les jeunes pour qu'ils puissent après être libres de leur propre choix. Cette année, on a mené pas mal d'actions, notamment à travers des animations, à travers la cantine, des concours au thème de la solidarité, citoyenneté, et une action également autour des poupées frimousses.
Alors, les poupées frimousses, il y avait des différentes affiches sur le collège. Ce sont des poupées en tissu que les élèves fabriquent eux-mêmes. Alors, ce sont les membres du club santé qui les ont fabriquées. Et c'était ouvert à tous les volontaires, d'autres élèves nous ont rejoints. Il y avait au moins 50 volontaires.
Les poupées frimousses, c'est une action lancée par l'UNICEF, qui n'est pas propre au club santé. Donc c'est Suzy Toubeau, qui est une intervenante UNICEF qui habite habitante de Pitre, qui est venue nous proposer sur cette action sur 3 ateliers. Donc comme dit Naïm, c'est des poupées qui ont été créées par les jeunes. On a mobilisé une cinquantaine de jeunes sur cette action.
Et je vais vous raconter les différentes étapes des fabrications d'une poupée frimousse. Alors, on a commencé par un patron en tissu, un corps de la couleur de notre choix, qu'on a rembourré avec du rembourrage, évidemment, et on en a recousu le trou de rembourrage. Une fois recousu, on a dessiné avec des patrons en carton des vêtements sur du tissu, et une fois cousu, nous les avons filés sur notre poupée. Donc, Suzy, l'intervenante UNICEF, nous cousait les cheveux juste après, et nous pouvions lui dessiner un visage.
Êtes-vous satisfait de votre initiative ?
Alors, moi en tout cas, je le suis satisfait, puisque nous les avons achetés, ou nous pouvons les vendre. Et c'était un moment très convivial, les différents élèves pouvaient se retrouver, on a pour certains de découvrir des activités manuelles, et surtout, tous les jours, des enfants n'ont pas accès aux soins. Et comme le permet les poupées frimousses, 1 euro au minimum permet un vaccin pour un enfant, et 20 euros permet la vaccination d'un enfant pour toute sa vie.
Comme vient de dire Naïm, en effet, le concept était d'adopter la poupée qui a été créée par l'enfant. Donc l'enfant pouvait la vendre ou la faire adopter par sa famille ou par lui-même. Donc suite à la conception de la poupée, les dons étaient libres avec un minimum d'un euro. Comme a dit Naïm, 1 euro égale à un vaccin. Si on atteint 20 euros, ça équivaut au vaccin pour un enfant sur la durée de toute sa vie. Donc on peut dire qu'on a été satisfait car toutes les poupées ont été vendues ou adoptées.
Avez-vous déjà des projets pour l'année prochaine ?
Alors le Club Santé participe à pas mal de choses, dont des concours auprès de la MSA, de la gendarmerie et plein d'autres choses. Actuellement on est en pourparlers, mais l'atelier se déroulera toujours une fois par semaine avec plein de surprises et de créations. Donc oui, on restera autour de la santé, la solidarité, citoyenneté, et ça repartira en effet à partir de la rentrée dès septembre, avec Marie-Hélène et moi-même.
Merci Naïm, merci Aurélie, et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt.
Merci à vous.
Au Papa, tu veux bien m'acheter la nouvelle poupée Malibu Stacy pour que je joue avec ma petite sœur, s'il te plaît?
Non, tu es un garçon. Tu ne veux pas plutôt un ballon comme ton grand frère?
Non, je veux vraiment cette poupée.
Bon, d'accord.
Bonjour, bienvenue au magasin Malibu Poupée. Oh, je suis désolée. Tu ne veux pas plutôt aller chez Boys Toys? Là-bas, ils vendent un super ballon.
D'accord, on va aller là-bas, merci. Si tu veux vraiment jouer avec ta petite sœur, on va t'acheter un ballon rose.
Venez tous chez Mix Toys, le premier magasin qui se joue des clichés. Vous y trouverez des ballons roses ou pailletés et des poupées Avengers qui chantent les chansons de la Reine des Neiges.
Mix Toys, tu 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 tu.
À présent, nous allons vous parler des préjugés qui sont actuellement très présents dans notre société. C'est un sujet très important et c'est pour cette raison que nous avons choisi de vous en parler, de la manière la plus précise et variée. À vous, Pauline et Jeanne.
Quel préjugé vous énerve le plus ?
Le préjugé qui m'énerve le plus, c'est qu'on dit que la fille porte tout le temps du rose et que le garçon porte tout le temps du bleu.
Ça m'énerve quand on dit que le foot c'est un sport de garçon et la danse un sport de fille.
Ça m'énerve quand on dit que les jeux de guerre c'est pour les garçons.
Ça m'énerve quand on dit que les hommes ne savent pas faire la cuisine.
Un préjugé est une croyance, une idée préconçue, une idée fausse envers une catégorie de personnes. Aujourd'hui et depuis toujours, les gens sont victimes de préjugés, que ce soit les hommes, les femmes, sur une nationalité, sur les métiers.
Bonjour, pour vous, qu'est-ce qu'un jeu de fille ?
Pour moi, ce que c'est qu'un jeu de fille ? Ben, je dirais qu'il n'y a pas spécialement de jeu de fille et de jeu de garçon.
Pour moi, il n'y a pas des jeux spécifiques pour les filles et des jeux spécifiques pour les garçons. On a peut-être des filles qui aiment davantage certains types de jeux, des garçons qui aiment davantage d'autres types de jeux, mais pour moi, ce sont ni des jeux de filles, ni des jeux de garçons. C'est simplement que, et peut-être que par centre d'intérêt, par habitude, par mimétisme, les filles jouent peut-être à certaines choses, mais j'ai déjà vu des filles jouer au foot, j'ai déjà vu des garçons jouer à la poupée. Si on est un peu sur les clichés habituel des jeux de filles et des jeux de garçons par exemple, et donc pour moi il n'existe pas de jeu de filles ou de jeu de garçons. Voilà,
c'est moi dans mon esprit, ça, c'est jouer à la poupée, c'est un jeu de filles. Voilà, mais j'ai des idées peut-être un peu rétrogrades.
Alors, un jeu de filles, pour moi, c'est souvent un jeu dans lequel les filles vont exprimer leur regard sur leur relation avec les garçons, leurs sentiments, leur façon d'être et ce qu'ils ressentent dans leur vie quotidienne. Plutôt un jeu de parole, quoi.
Un jeu de filles, c'est un jeu calme et pas violent.
Moi, je trouve pas qu'il y a un jeu de filles ou un jeu de garçons ou un truc comme ça, parce que tout le monde a le droit de jouer à ce qu'ils veulent.
Pour moi, ça n'existe pas, un jeu de filles, tout est mixte.
Un jeu de filles, c'est un jeu où les filles et les garçons peuvent jouer ensemble, c'est le même jeu pour tout le monde, il n'y a pas de jeu de filles.
Reste dès le plus jeune âge à cause de l'éducation, du contexte social ou de traumatismes subis. Tout le monde peut en être victime ou acteur. Les préjugés sur les filles et les garçons sont les plus connus. Les femmes s'occupent mieux de la maison et des enfants, elles ne conduisent pas bien.
Une question à vous poser, c'est quoi pour vous un jeu de garçon ?
Alors pour moi un jeu de garçon, c'est le foot, tout simplement.
La poupée, c'est un jeu d'imitation. Et les papas s'occupent en général de leur bébé, de leur enfant. Et donc le petit garçon peut imiter son papa en jouant à la poupée.
Un jeu de garçon, pour moi, c'est un jeu qui consiste souvent à user de son corps, c'est-à-dire à montrer qu'on est puissant et qu'on est fort. C'est un petit peu l'image que j'ai.
Pour moi, un jeu de garçon, c'est plutôt les jeux vidéo, les jeux de guerre.
Il n'y a pas de jeu de garçon.
Pour moi, il n'y a pas de jeu de garçon. On est tous égaux.
Les hommes, vous faites
les beaux avec vos ados au bord de l'eau avec vos photos sur les réseaux en vous croyant beau. Alors que les femmes assument leur corps comme leurs âmes, tous inscrits sur des sites à chercher des femmes, mais sans amis, vous appelez tous Rémi. J'ai beaucoup donné sans jamais recevoir et à la fin, on m'a dit d'aller me faire voir.
Fini les clichés. Vous pouvez retrouver le CD des Rap Girls dans tous vos magasins.
Une, deux. Allez les filles, on s'accroche. Encore une série. Bien, fin de l'échauffement. Soufflez, étirez-vous. Bien, j'ai quelqu'un à vous présenter. Voici Rémi. À partir d'aujourd'hui, il intègre l'équipe. Je compte sur vous pour bien l'accueillir.
Bonjour les filles, je m'appelle Rémi et je suis hyper fière d'intégrer le groupe. J'attendais ça depuis tellement longtemps, c'est vraiment le plus beau jour de ma vie.
Ouais, salut.
Bon, on reprend, on a un match à préparer. Allez, c'est parti, petit match 5 contre 5. Manon, Émilie, Luna et Mallory, Léa, sur la touche.
Madame, on peut vous parler ?
Oui, qu'y a-t-il ?
C'est à propos de Rémi, nous on veut pas de garçons ici. De quoi on aurait l'air ?
C'est vrai, ce qui fait notre identité, c'est qu'on est une équipe de filles, et uniquement de filles. Oui, c'est soit lui, soit nous, ou pas de match.
Oh là là, mais bien sûr que vous êtes une équipe de filles, qui en doute. Mais justement, intégrer Rémi nous donnera une autre dimension. Soyons un peu modernes et tolérantes, les filles.
Vendredi soir au Parc des Princesses, France-Angleterre, une rivalité au sommet du rugby féminin. Les Bleues restent sur 4 victoires. Elles sont en pleine confiance et le groupe n'a jamais paru aussi soudé. Suivez les exploits de Manon, Luna, Émilie et de Rémi, leur mascotte. Toujours prêt à porter les bouteilles et à faire le pom-pom boy. Vendredi, à partir de 20h30, en direct sur Web2R TV, vivez le rugby en bleu et au féminin. Ou presque.
Maintenant, nous allons passer à la rubrique filles-garçons. C'est d'ailleurs le thème que vous pouvez retrouver sur le mur d'expression disposition dans le hall de notre collège, alors surtout n'hésitez pas à donner votre avis.
Maintenant, nous allons écouter l'interview de Madame Aubé, la CPE de notre collège. Nous l'avons rencontrée pour qu'elle nous parle de l'égalité filles-garçons au sein de notre établissement.
Bonjour Madame Aubé, merci de nous recevoir dans votre bureau. Nous sommes les élèves de 4e D et nous allons vous poser des questions sur l'égalité filles-garçons.
Bonjour jeunes gens, donc je vais répondre à vos questions, je vous écoute.
Qu'est-ce qu'est l'égalité filles-garçons pour vous ?
Alors pour moi, c'est les droits et obligations sont les mêmes aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc il n'y a pas de distinction au niveau de leurs devoirs et de leurs obligations.
D'accord.
Et de leurs droits.
Vous êtes en permanence au contact des élèves de cet établissement. Avez-vous remarqué une différence au sein du collège entre les filles et les garçons ?
Oui, notamment au niveau des choix d'orientation. On constate chaque année que nos jeunes filles s'orientent plus vers des formations type coiffeuse, esthéticienne, ce type de formation, contrairement à nos élèves garçons. En tout cas, moi, depuis que je suis conseillère d'éducation, je n'ai jamais vu un seul garçon s'orienter vers ce type de formation professionnelle. Que ça soit, je vous dis, esthéticienne, coiffeur, etc. Donc effectivement, c'est encore une distinction qui perdure actuellement.
Trouvez-vous que les élèves sont égaux entre eux ?
Moi, oui. Moi, je ne fais aucune distinction entre les élèves. Pour moi, les garçons ont... J'ai les mêmes attentes aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc pour moi, à mon niveau... chaque élève est égal par rapport à l'autre, quel que soit son sexe.
Pensez-vous que l'égalité filles-garçons a évolué depuis que vous étiez vous-même au collège ?
Ça évolue, mais ça demande du temps. Ça demande du temps. Il y a encore énormément de choses à améliorer. Je dirais qu'on commence à prendre conscience qu'il y avait des différences entre les filles et les garçons depuis un an, pas plus. Mais c'est une évolution qui est très lente et qui demandera encore beaucoup de temps pour que les choses évoluent. C'est pas gagné encore.
Pour vous, c'est quoi un jeu de filles ou un jeu de garçons ?
Alors forcément, si je me réfère à ma génération, à mon âge, nous les filles on jouait à la poupée, et puis les garçons jouaient soit avec des petites voitures, des soldats, etc. Quand je vois les enfants qui sont autour de moi, j'ai tendance à dire que c'est toujours le cas. Quand vous voyez des publicités par exemple à la télévision, même si ça commence un peu à changer, malgré tout, sur les images, les catalogues que l'on a, qu'on reçoit au moment de Noël, etc., on voit quand même toujours la petite fille avec la poupée dans les bras et le petit garçon qui va plutôt jouer avec des Playmobil, une grue, un garage à construire, etc. C'est pas non plus encore gagné à ce niveau-là. Pour moi, même moi, je l'avoue, même moi, j'aurais du mal à offrir une poupée à un petit garçon. Comme quoi, il y a encore aussi des choses à améliorer dans notre état d'esprit.
Avez-vous mis en place des actions pour instaurer une plus grande égalité entre les filles et les garçons ?
Alors, comme vous le savez, on a décidé avec les membres du Conseil de la vie collégienne de mettre en place l'utilisation des tables de ping-pong. Parce que nous avions remarqué que seuls les garçons jouaient au tennis de table sur la pause méridienne. Et on s'est rendu compte, d'après les propos des élèves, que les filles n'étaient pas forcément les bienvenues. Les garçons avaient tendance à leur demander d'aller jouer ailleurs. Donc on a imposé une semaine uniquement réservée aux jeunes filles et une semaine uniquement réservée aux garçons. Et là encore, ça fonctionne pas bien. Après, on peut pas forcer les jeunes filles à jouer au ping-pong, mais on se rend compte que quand c'est la semaine des filles, très très peu de jeunes filles sont demandeuses pour aller jouer au ping-pong. Donc là encore, c'est pas gagné. Et donc, comme on sent qu'il faut qu'on travaille à ce niveau-là sur l'égalité filles-garçons, d'ici une dizaine de jours, on va mettre en place de nouveau ce qu'on appelle le mur d'expression. Hein, vous connaissez un peu ce projet. Donc, on va demander à tous les élèves de l'établissement de quelle inégalité filles-garçons vous avez été témoin. Et donc, on va pouvoir faire un petit peu. Alors, c'est pas un sondage, mais voir où reposent les inégalités, quelles ont été les inégalités pour vous. Est-ce que vous avez été victime, vous, en tant que jeune fille, d'inégalités par rapport aux garçons ? Donc, on va vous interroger par rapport à ça d'ici une dizaine de jours.
Merci de nous avoir reçus et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous également.
Nous remercions Madame Aubet d'avoir répondu à nos questions. En effet, depuis notre entretien, le mur d'expression a été mis en place. La question posée est « De quelle inégalité, filles-garçons, avez-vous été témoin ?» Beaucoup d'élèves ont déjà répondu, mais n'hésitez pas à revenir vous exprimer plus nombreux pour faire changer les choses.
Le nouveau jeu de la série Call of Duty sort le mercredi 13 juin. Ce jeu sera l'un des plus sanglants de la série. Nouvelles armes, mode campagne plus compliqué et plus gore. Le mode zombie est de retour avec plus de dynamisme, de frayeur. Vous allez en faire des cauchemars. Insensible, s'abstenir.
Waouh, ce jeu est d'enfer. J'ai hâte d'y jouer.
Bah, si tu le veux, tu le paieras avec tes sous.
Call of Duty Lady Warfare sera réservé aux filles.
Ah, cela fera plaisir à ta sœur et complétera sa collection.
C'est pas vrai, c'est toujours pour les filles, jamais pour nous.
Et maintenant, nous allons adopter le thème du droit des femmes, qui est un seul qui est un sujet important et toujours d'actualité. Dans les médias et dans les écoles, nous entendons beaucoup parler des inégalités hommes-femmes. Dans les collèges, certaines journées sont même organisées pour lutter contre le sexisme. C'est pour soutenir ce combat que nous avons choisi de vous présenter ce sujet aujourd'hui sur Web2R.
Cette photo provient d'un géoado numéro 121 avec cette question posée sur la couverture. Quand l'égalité fille-garçon existera-t-elle ? Sur cette photo, nous pouvons voir un garçon et une fille dans les bras l'un de l'autre. Ils sont heureux, leurs visages se ressemblent. Ils sont tous les deux blonds, aux yeux bleus et cheveux mi-longs. L'arrière-plan est flouté pour mettre en valeur les deux personnages qui prennent plus de 50% de l'image.
Cette image nous interpelle car elle évoque bien l'amitié fille-garçon. Nous aimerions bien voir plus souvent ce genre de situation au collège, car trop souvent les filles restent avec les filles et les garçons avec les garçons. Malgré les différences filles-garçons, ont les mêmes droits et doivent se soutenir dans ce combat. L'amitié filles-garçons existe et peut exister.
Web2R.
Connaissez-vous les plus grandes dates qui ont permis aux femmes d'obtenir plus de droits ? Pour le savoir, écoutons Laure, Chimène et Laurine qui vont nous rafraîchir la mémoire.
En 1907, les femmes mariées peuvent disposer de leur salaire.
Elles sont encore peu nombreuses à travailler, mais n'ont plus besoin de l'autorisation de leur mari pour utiliser ou dépenser l'argent qu'elles ont gagné.
En 1944, les femmes obtiennent le droit de voter. Elles voteront pour la première fois en 1945.
La France est l'un des derniers pays développés à accepter que les femmes soient des citoyennes. Elles obtiennent ce droit presque 100 ans après les hommes.
En 1965, les femmes mariées peuvent exercer une profession sans avoir l'accord de leur mari.
Et dire que cela ne fait que 50 ans.
En 1970, Antoinette Fouque, Josiane Chanel et Monique Wittig créent le MLF, le Mouvement de Libération de la Femme. Cette association réclame le droit des femmes à la contraception et à l'avortement.
La même année, les mères obtiennent l'autorité parentale au même titre que les pères. Depuis Napoléon Ier, cet article du Code civil n'avait jamais été modifié.
En 1974, la loi Veil autorise l'exécution volontaire de grossesse.
Oui, mais encore aujourd'hui, cette loi fait débat.
En 2000, c'est la loi sur la parité homme-femme en politique. Cette loi prévoit une égalité obligatoire des candidatures pour les scrutins de liste, et même une alternance des candidats de chaque sexe sur les listes.
Tant mieux, mais les femmes sont encore peu représentées en politique. À quand une femme présidente de la République ? Maintenant, nous allons écouter un portrait d'Olympe de Gouges.
Olympe de Gouges est considérée comme la première féministe. C'est une femme de lettres et une révolutionnaire française qui a vécu entre 1748 et 1793. Elle est née à Montauban d'une famille modeste, d'un père boucher et d'une mère servante. Selon les rumeurs publiques, elle serait la fille du marquis Lefranc de Pompignan, qui lui était un poète. D'autres disent aussi qu'elle serait la bâtarde du roi Louis XV.
Rêvant de célébrité, elle prend le pseudonyme de Olympe de Gouges. À partir du nom de sa mère et de son patronyme, elle devient femme de lettres à partir de 1780 en publiant des romans et des pièces de théâtre. Mais ce qui la rend célèbre est le texte publié en 1791, la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Dans d'autres écrits, elle s'en prend aussi à l'esclavage et à la peine de mort. Arrêtée le 20 juillet 1793, suite aux accusations la déclarant comme l'auteur d'une affiche girondine, elle est condamnée à mort le 3 novembre et elle est guillotinée.
Simone Veil a vécu son adolescence pendant la Seconde Guerre mondiale. Étant issue de famille juive non pratiquante, elle a été déportée à l'âge de 16 ans au camp d'Auschwitz. Après sa libération, elle est devenue une grande femme politique. Nous sommes heureux de l'accueillir aujourd'hui.
Web2R.
Bonjour à vous Simone Veil et merci d'avoir répondu à notre invitation sur Web2R.
Bonjour, c'est un plaisir.
Tout d'abord, quand êtes-vous née ?
Je suis née le 13 juillet 1927 à Nice.
Pouvez-vous nous parler de votre famille ?
Je suis née dans une famille juive non pratiquante. Mon père était architecte et ma mère était mère au foyer.
Vous avez vécu l'horreur de la déportation alors que vous étiez adolescente. Qu'avez-vous fait après votre libération ?
J'avais 18 ans quand je suis revenue des camps et comme j'avais perdu mes parents, je me suis mariée très vite.
et j'ai aussi entrepris des études de droit. Pourquoi vous êtes-vous engagé en politique ? De par mon métier, j'ai toujours été intéressée et impliquée par les sujets de société. J'avais envie de pouvoir agir et de mettre en avant mes idées. Vous êtes à l'origine de la loi qui légalise l'avortement en 1974. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce combat ?
Oui, j'ai été nommée ministre de la Santé en 1974 sous la présidence de Valérie Giscard d'Estaing. Et j'ai été alertée par les chiffres alarmants. 1 million de femmes se faisaient avorter en France chaque année avec le risque de mourir et de ne plus pouvoir avoir d'enfants.
Un tel sujet divise encore aujourd'hui et vous étiez la porte-parole de cette loi. Décrivez-nous ces semaines de débat à l'Assemblée nationale.
Oui, cela a été une période très difficile. C'est pour moi, car j'ai reçu beaucoup d'insultes, des lettres, de menaces, et j'avais des croix gammées dessinées sur ma voiture.
Vous êtes une femme de combat. Pouvez-vous nous parler des autres sujets qui vous tiennent à cœur ?
Je crois beaucoup en l'Union européenne. J'ai d'ailleurs été longtemps députée européenne, et j'ai même présidé le Parlement européen en 1979 à 1982. Depuis que je ne travaille plus, je m'investis beaucoup à la mémoire de Shoah.
Eh bien, merci à vous, Simone Veil, d'avoir répondu à nos questions sur Web2R.
Le Romini Express spécial Solidarité et Égalité vient de paraître. Attention, c'est une édition limitée. À se procurer absolument. Disponible dans toutes les salles du Collège de la Côte des Deux Amants.
Web2R.
Aujourd'hui, Clara, Romane, Suzanne de 4e D vont nous parler de l'éducation des filles dans le monde. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'enfants, et surtout des filles, qui n'ont pas encore accès à l'éducation.
Web2R.
Dans le monde, 101 millions d'enfants ne sont pas scolarisés, dont 66 millions de filles et 35 millions de garçons. La pauvreté est une des raisons qui empêche les filles de fréquenter une école. Pourtant, il a été prouvé qu'une fille qui va à l'école pendant au moins 9 ans participe mieux au développement de sa famille et de son pays.
Les filles doivent être scolarisées pour réduire les inégalités, la pauvreté et assurer le respect des droits. Malheureusement, dans beaucoup de pays, les garçons sont toujours considérés comme les meilleurs.
Pour cela, l'UNICEF, en français Fondation des Nations Unies pour l'Enfance, et l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, sont des organisations qui aident à réduire les inégalités d'accès à l'éducation dans le monde. L'UNICEF aide les pays à mettre en place les systèmes d'éducation qui offrent un enseignement de qualité aux garçons et aux filles.
La femme que nous allons vous présenter aujourd'hui s'appelle Malala Yousafzai. Cette femme s'est battue contre les talibans. Elle défend encore aujourd'hui l'éducation pour les filles à travers le monde. Maintenant, voici l'histoire de son combat.
Malala Yousafzai est née le 12 juillet 1997 à Mingora, dans le quartier du Swat, au Pakistan.
En 2007, des talibans attaquent le village de Malala.
Alors, âgée de 11 ans, Malala commence à défendre l'éducation pour les filles, dans son pays, en créant un blog sur un site britannique de la BBC.
La fille pakistanaise pointe du doigt les violences des talibans.
Qui découvre alors le blog de Malala.
Le 9 octobre 2012, dans l'après-midi, elle prend l'autobus de l'école pour rentrer chez elle.
Fazlullah, le chef des talibans, ordonne à ses hommes d'arrêter ce bus et de tirer sur Malala.
Après une balle tirée sur Malala, le chauffeur la conduit tout de suite à l'hôpital du centre du Swat.
Elle survit.
Ses parents décident donc d'aller à Londres pour la protéger, elle et le reste de sa famille, des talibans qui étaient encore à leur recherche.
Le 12 juillet 2013, Malala fête son 16e anniversaire en prononçant un grand discours à la tribune des Nations Unies.
Ce jour devient la journée de Malala.
Celle-ci gagna alors le prix Nobel de la paix ainsi que d'autres prix très importants.
À présent, Malala est retournée dans son pays natal, le Pakistan, où elle est en paix avec sa famille.
Auditeurs et auditrices, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une photo qui illustre l'égalité filles-garçons. Si ce sujet vous intéresse, restez avec nous. La photo que je vais vous présenter vient d'un magazine Le Monde des Ados, numéro 339. En arrière-plan, on voit une tête séparée en deux par une sorte de déchirure. À droite, on voit un visage de fille avec des cheveux coupés courts, teintés d'un blond presque blanc. Ses yeux ourlés de cils sont d'un bleu très clair. Elle porte un anneau d'argent sur sa narine,
et ses lèvres sont si claires qu'elles sont presque de la même couleur que sa peau. La partie gauche représente un visage masculin aux cheveux châtains coupés courts. Ses yeux sont marrons et presque aussi sombres que ses cheveux. Contrairement à la partie de droite, il ne porte pas de piercing et ses lèvres sont plus foncées. À mon avis, cette photo illustre la différence entre les filles et les garçons, mais qu'on est tous égaux. Ce message est aussi bien illustré par l'image que par la question écrite en dessous en grosses lettres rouges. Filles, garçons, tous égaux. Il faut également observer la remarquable symétrie des deux visages. En effet, au-delà de nos différences de couleur de peau, d'yeux, de cheveux, de lèvres, nous sommes tous égaux et les différences entre les filles et les garçons n'existent pas.
Maintenant, nous allons poursuivre avec une interview de Madame Hébert, une journaliste de l'Impartial. Elle va nous dire en plus sur son métier et les difficultés qu'elle peut rencontrer.
Ouais, deux R.
Bonjour Madame Hébert, aujourd'hui sur Web2R, nous souhaitons vous poser quelques questions sur votre métier de journaliste à l'Impartial, un journal hebdomadaire local. Combien d'heures travaillez-vous par jour ?
Alors bonjour, pour le travail, ça dépend en fait des rendez-vous. Ça dépend de ce qui peut tomber au dernier moment. Ce soir, je devais finir un peu plus tôt et j'ai un rendez-vous qui est tombé. Donc voilà, ce soir, je pense rentrer pour 20 heures à peu près. En moyenne, on travaille entre plus de 10 heures.
À quoi ressemble une journée type de travail pour vous ?
Alors, il n'y a pas de journée type. Il n'y a pas vraiment de journée type. Le matin, je peux commencer à 8 heures comme à 9 heures. Généralement, on commence vers 9 heures quand on n'a pas de rendez-vous avant. Ce matin, j'ai commencé avant puisque j'étais à Fréquence Andelle, la web radio, cette fois-ci, des écoliers. Si je n'ai pas de rendez-vous tôt le matin, je vais au bureau, je consulte mes mails, j'ouvre le logiciel, je commence à écrire si j'ai besoin d'écrire et je pars en rendez-vous suivant mon planning de rendez-vous.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
Ce qui me plaît dans mon métier, c'est ce que je dis, d'ailleurs c'est ce que j'explique très souvent, j'ai beaucoup de stagiaires de votre collège qui viennent. Ce qui me plaît, c'est que tous les jours j'apprends quelque chose, mais ça peut être une petite chose, une chose qui peut paraître insignifiante comme quelque chose de plus important. Je découvre toujours quelque chose. C'est ça qui me plaît. Je vais à la rencontre des gens, je suis au contact des gens je les rencontre, je les côtoie pour après mettre en forme mon information et la retranscrire à mon lecteur.
Rencontrez-vous des difficultés particulières dans votre métier ?
Alors, ça dépend quelles difficultés. Est-ce que tu parles de difficultés parce que je suis une femme ou dans mon métier en général ? Alors, des difficultés, ça peut être de tout. C'est pas grave, mesdemoiselles, détendez-vous. Elles sont stressées un peu, je vous le dis. Les difficultés, mais c'est comme dans tous les métiers. Il y a des difficultés dans tous les métiers. Il y a des avantages, des inconvénients. On peut avoir des difficultés à ramasser une information, à la vérifier. Voilà, c'est tout type de difficultés. Comme dans tous les métiers, vos professeurs vont avoir des difficultés pour certaines choses. Voilà.
Combien d'années d'études avez-vous fait pour devenir journaliste ? Quelle a été votre formation ?
Alors, moi, j'ai suivi une formation un peu atypique, parce que journaliste, il n'y a pas que la formation que très couramment répandue, les grandes écoles. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'alternance, il y a beaucoup de formations par alternance, ça existe, c'est monnaie courante d'ailleurs. Et alors moi, j'ai fait une école privée en 2 ans pour aller très vite et pour travailler très tôt. Donc comme vous au collège, pendant 2 ans où je faisais aussi du terrain, j'avais des stages de fin d'année et après j'ai commencé à travailler.
Y a-t-il une hiérarchie dans le métier de journaliste ?
Alors, hiérarchie, c'est toujours ma question. Alors, je suis désolée, c'est moi qui suis habituée à poser des questions. Alors, d'où le fait que je vous en retourne beaucoup. Alors, c'est hiérarchie dans quel sens ? Est-ce que j'ai un chef, par exemple ? C'est ça ?
Oui.
Alors, en fait, à l'Impartial, nous sommes 4 journalistes. Et dont un, c'est mon rédacteur en chef, qui chapeaute le journal, qui chapeaute le bon déroulement du journal chaque semaine. Et en plus, lui, il a un supérieur qui s'appelle un éditeur, mais nous, c'est le même. Il fait les deux postes. Au-dessus, on a d'autres dirigeants. En fait, on chapeaute par zone. Ça passe, par exemple, un éditeur s'occupe de plusieurs journaux. Au-dessus, il a quelqu'un qui s'occupe de plusieurs zones d'édition, etc. Si c'est ça votre question.
Est-ce que votre métier comporte plus d'hommes que de femmes ?
Alors ça, c'est un sujet que la parité. Nous ne sommes pas une profession qui nous n'avons pas la profession la plus paritaire, on va dire. Ça commence, ça tend. Pourtant, nous, on alerte beaucoup sur ce sujet. Ça tend. Il y a de plus en plus de femmes. Nous sommes la profession se féminise énormément à notre niveau, c'est-à-dire les journalistes de terrain. Mais comme dans beaucoup de corps de métier, comme dans tout type de profession, souvent les postes les plus hauts sont exclusivement masculins. De fait aussi parce que pendant une période, la presse, il n'y avait pas de femmes. Et de toute façon, on a l'image de l'homme en costume qui allait sur les reportages. Mais ça tend énormément à se féminiser. Moi, contrario, à ma rédaction, je suis la seule femme. Mais en fait, mes collègues, ce sont trois hommes. Mais pour l'atelier, parce que nous sommes situés en haut dans le bâtiment de l'impartial, l'atelier en bas fait la production. Nous n'avons que deux hommes pour 12 ou 13 femmes.
Qui est à la tête des postes clés ?
Alors, les postes clés, alors c'est ce que je vous ai dit, ce sont majoritairement des messieurs. C'est ce que vous voulez savoir, je pense. C'est-à-dire, par exemple, l'éditeur. Je vous ai expliqué, l'éditeur, c'est le chef de plusieurs rédacteurs en chef. Dans les éditeurs dans notre groupe qui regroupe quand même 100 titres de presse, nous avons seulement deux éditrices, deux femmes. Donc ça tend à... notre direction tend à réduire ce phénomène, mais c'est comme dans toutes les entreprises, il y a du travail, je pense. Mais c'est aussi, est-ce que des fois, nous, les femmes, on se dit pas... moi, je connais des collègues, peut-être rester un échelon plus bas, parce que souvent, même si on travaille beaucoup, si on n'a pas un compagnon qui s'occupe des enfants, etc., nous, après nos 10 ou 12 heures de boulot chaque jour, il y a aussi, par exemple, les enfants, la famille, la maison... Les clichés sont encore très ancrés.
Alors qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'affaires d'harcèlement, pouvez-vous nous dire si vous avez déjà été confronté à ce genre de situation dans votre métier ?
Moi, personnellement, non. Parce que... Je suis assez rentre-dedans. Alors, je ne me laisserai pas faire. Et parce que je suis une génération aussi qui a commencé à être informée à partir de... Il y a 10-15 ans. Vous êtes pleinement la génération qui est dedans. On vous en parle. Moi, en collège, on m'a jamais parlé de ça. Parce que c'était pas l'époque, c'était pas le moment, on n'en parlait pas. Donc, moi, personnellement, non. Je pense que c'est comme dans toutes les professions, certaines personnes doivent en subir, que ce soit femme ou homme, d'ailleurs. Il y a aussi les messieurs, faut pas les oublier. Hein. Ils peuvent être aussi sujets à ça.
Merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions. À bientôt sur Web2R.
Suite à l'interview de Madame Hébert, nous continuons donc l'émission avec une interview fictive préparée par deux élèves. Nathan s'est glissé dans la peau du journalisme et Adali c'est celle de Joseph Kessel, qui était un grand reporter, romancier et aventurier.
Bonjour Monsieur Kessel, bienvenue dans notre émission sur Web2R. Je suis Nathan, un élève de 4e et je souhaite en savoir un peu plus sur vous et votre carrière.
Bonjour Nathan, oui on m'avait prévenu, je suis tout à toi.
Votre réputation n'est plus à faire, vous êtes un reporter, un romancier et aussi un aventurier. Comment avez-vous fait pour devenir un aussi grand reporter ?
J'ai tout d'abord commencé à écrire des livres, puis je suis entré à l'Académie française. Mais je voulais aussi être aventurier, alors reporter me permettait d'allier les deux, l'écriture et le voyage.
En plus de reporter, vous êtes aussi romancier ?
Oui, ma vie en Argentine, puis ma participation à la Grande Guerre et mon désir de voyager m'ont laissé beaucoup de choses à raconter et à partager. Et quoi de meilleur que les livres pour faire partager ce que l'on a vécu ou ce que l'on aime ?
Parmi tous vos livres, lequel vous a rendu le plus fier ? Lequel vous a le plus ému ?
Sûrement Les Captifs, car je l'écris pour ma femme. Et j'y parle de la tuberculose. cette maladie qui a touché beaucoup de monde pendant la Grande Guerre.
En parlant de la Grande Guerre, pourquoi avez-vous pris part au combat en 1916 ?
Tout d'abord parce que je ne pouvais pas regarder les autres mourir sans rien faire. Les hommes de lettres ou d'écriture doivent aussi vivre ce genre de situation et défendre notre liberté. Il ne suffit pas de l'écrire dans le livre, il faut le vivre. Je pense que c'est ceci qui m'a poussé à me battre.
Dans toutes ces aventures, quelle est la chose la plus folle que vous ayez faite ?
Sans doute ma traversée clandestine des Pyrénées avec mon neveu. Nous voulions rejoindre Londres. Nous étions extrêmement stressés et avions peur de nous faire prendre. Cet instant qui a été le plus fou, je crois.
Enfin, voici ma dernière question. Pensez-vous avoir eu une vie bien remplie avec tous ces métiers ?
Ah oui, j'étais bien occupé. En plus, j'aime partager ce que j'imagine avec les autres et pour cela, il n'y a pas mieux que l'écriture, comme je te l'ai dit. Être écrivain, donc être dans l'imagination, tout en vivant des aventures, n'est-ce pas cela le rêve de tout petit enfant ?
C'est juste. En tous les cas, merci beaucoup, Monsieur Kessel, d'avoir pris du temps pour me rencontrer, malgré votre emploi du temps chargé.
Merci à toi, Nathan, de t'intéresser à mon histoire.
Au revoir, Monsieur Kessel.
Au revoir, Nathan.
Et à présent, passons à une description d'image sur le thème du harcèlement choisi par plusieurs élèves de 4e.
Cette image représente les couloirs d'un collège. On y voit un garçon qui se fait pointer du doigt par un groupe d'élèves avec des masques représentant des visages d'animaux prédateurs, alors que lui ne possède pas de masque. En arrière-plan, on aperçoit une affiche avec écrit « La loi du silence ».
Cette image représente le harcèlement scolaire. Dans ce cas, c'est un garçon qui est harcelé. Mais tout le monde peut être touché par le harcèlement. Les filles peuvent également harceler les garçons.
Cette image, on voit un groupe de Gélada faisant face à un Gélada tout seul. Ce Gélada est un peu différent, il est plus gros.
Cette image nous interpelle et nous choque, car chez les humains, lorsqu'un groupe de 6 personnes s'attaque à une personne un peu différente des autres, on appelle cela du harcèlement.
Cette photo est pour nous l'occasion de rappeler de parler du harcèlement, pour rappeler que nous sommes tous concernés par ce sujet.
Ne laissons jamais quelqu'un de différent à l'écart.
Cette image représente une cour d'école avec en arrière-plan des élèves qui se tiennent par les épaules. Au premier plan, nous voyons un garçon et une petite fille qui tiennent une pancarte avec marqué dessus « Brisons le silence ».
Cette image nous envoie un message comme quoi les problèmes égalitaires entre les filles et les garçons peuvent être réglés en parlant.
Le Romini Express spécial solidarité et égalité vient de paraître.
Attention, c'est une édition limitée, à se procurer absolument.
Disponible dans toutes les salles du collège de la Côte des Deux Amants.
Madame Baumann est une auteure de livres pop-up. Les livres pop-up sont des livres animés dont les pages se mettent en mouvement grâce à des collages et des pliages. Madame Baumann a rencontré des élèves des écoles primaires et les classes de 6e de Romilly-sur-Andelle. En effet, la réalisation de ces livres convient aux petits comme aux grands. Nous nous sommes donc mis dans la peau de journaliste et nous nous sommes rendus au salon du livre de Romilly-sur-Andelle pour l'interviewer. Voici le moment de l'écouter.
Bonjour Madame Baumann, nous sommes des élèves de la classe de 4e C du collège de Romilly-sur-Andelle. C'est un grand plaisir de vous interviewer au sujet du projet que vous avez mené avec différentes classes de Romilly.
Pouvez-vous nous parler de votre métier ?
Alors bonjour, merci de m'interroger sur ce métier et mes interventions. Ben, je suis auteur pour les enfants. Documentaires. Les documentaires, c'est des livres qui donnent des informations sur le monde qui nous entoure. Et mes livres sont destinés aux enfants à partir de 2 ans jusqu'à, on va dire, le CM2. Mais je fais aussi des interventions au lycée ou au collège pour faire des pop-up.
Qu'aimez-vous dans ce métier ?
Alors, ce que j'aime dans ce métier, c'est par exemple de pouvoir vous rencontrer comme aujourd'hui. C'est un grand plaisir pour moi. Je rencontre aussi beaucoup de gens en fonction des thématiques. Par exemple, Je viens de faire un livre sur la vache, donc j'ai rencontré beaucoup d'éleveurs, mais aussi des bouchers, des crémiers. J'ai fait un livre sur les pompiers, j'ai rencontré un spécialiste des pompiers de New York. Donc voilà, c'est à chaque fois des rencontres très amusantes et absolument passionnantes qui me donnent une autre façon d'accéder à l'information que des façons plus classiques, comme la bibliothèque ou Internet. Rencontrer les gens, c'est bien aussi.
D'où vous est venue l'idée de faire des livres animés ?
Alors, les livres animés, en fait, j'ai eu un choc un jour dans une librairie. J'étais déjà un petit peu âgée. Je devais avoir 24 ou 25 ans. J'ai vu un livre sur Alice au Pays des Merveilles dans une petite librairie à Paris par un auteur qui s'appelle Robert Sabouda, à partir du livre de Lewis Carroll, mais l'ingénieur papiste, c'est Robert Sabouda. Et c'était un livre incroyable qui m'a sauté au visage avec d'énormes pop-up. Et aussi des petits endroits très doux. Il y a des chats dans Alice au Pays des Merveilles. Il y a un endroit très doux. Et ça m'a vraiment choquée, en fait. Ça m'a donné envie de regarder un petit peu plus loin. Regarder de plus près aussi. Qu'est-ce que c'est que ces livres? Voilà.
Nous avons appris que vous avez travaillé avec des classes de Romilly-sur-Andelle. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistait ce projet et comment il est né?
Alors, ce projet, il est né de l'envie de Catherine, de la bibliothèque, de faire des pop-up dans la ville. Alors, elle m'a contactée, puis elle m'a exposé le projet. Puis moi, ça m'a beaucoup intéressée. Donc, effectivement, j'ai pu intervenir auprès des classes pour montrer comment on fait les pop-up, des pop-up tout simples, montrer comment on les met dans les livres. Et puis aussi montrer, voilà, bricoler et mettre la main à la pâte sur différents projets. Un projet de musée, parce que les enfants étaient partis dans un musée à Rouen. Projet aussi autour du tableau de Van Gogh, la chaise. Voilà. Mettre en relief et animer.
Quelle classe avez-vous travaillé ?
Alors, j'ai travaillé avec des classes de Romilly-sur-Andelle en CM, en maternelle et en école primaire. Pardon ? Et au collège aussi, bien sûr.
Avez-vous travaillé sur des thèmes particuliers ?
Oui, oui, on a travaillé sur... au collège, on a travaillé sur les pop-up en général et aussi pour les appliquer aux thèmes que vous aviez travaillé en classe. Par exemple, la préhistoire, les insectes, les chevaux, et puis les fêtes anglaises aussi également. Et puis, en maternelle et à l'école primaire, on a travaillé sur le musée de Rouen, justement, des Beaux-Arts, aussi sur Van Gogh, sur les continents, sur voilà, plein de thématiques différentes. Et aussi, bien, le loup, ouais.
Combien de temps a duré la réalisation de ces livres ?
Alors moi, j'ai initié, c'est-à-dire j'ai fait comme un tremplin, en fait, avec les enfants et les enseignants. On a travaillé à donner une impulsion, en fait. Et ensuite, les enseignants ont travaillé avec les élèves. Vous avez vu, vous, au collège, avec votre professeur d'art plastique. Et ensuite, ça s'est fait pendant très longtemps. Hein. Il y a eu peut-être deux, trois mois de travail en tout. Hein.
Merci, Madame Baumann, d'avoir répondu à nos questions. Et à bientôt sur Web2R.
À bientôt. Merci beaucoup.
Et voilà, notre émission arrive à son terme.
Nous espérons que vous avez appris beaucoup de choses, que les différents reportages vous ont donné envie d'agir pour plus de solidarité et d'égalité entre les filles et les garçons.
Et tout cela, évidemment, est sain du collège ainsi qu'à l'extérieur.
Web2R.
Pour finir, nous souhaitons remercier les nombreuses personnes qui nous ont apporté leur soutien.
Madame Ansna, des éditions Globule, avec qui nous avons travaillé toute l'année.
Le canop pour le prêt de la valise et l'aide technique apportée.
Madame Manelli et Madame Beaupied pour nous avoir fait confiance et pour avoir soutenu notre projet tout au long de l'année.
L'équipe de la vie sociale qui a toujours répondu présent pour nous aider dans notre projet.
Toutes les personnes du collège qui ont accepté de répondre aux questions des élèves.
Les élèves de l'atelier Photoshop qui ont travaillé sous la direction de Monsieur Blaise et à la réalisation du logo de Web2R. et de l'affiche pour l'émission d'aujourd'hui.
Ce projet a été possible grâce au financement d'une résistance d'artistes par la DAC ainsi que le conseil départemental de l'Eure.
Un grand merci à tous.
Bienvenue à nouveau sur Radio Web 2R. Bruno Martin, moi je travaille au réseau Canopé. J'étais ravi d'être avec vous cet après-midi pour prêter le matériel, former les élèves. Franchement, bravo. Ceux qui sont derrière nous, vous pouvez applaudir parce que c'était pas facile. Bravo à eux. Super expérience. Et je vais tout de suite passer la parole à Madame Manelli, la principale du collège qui nous accueille. On est dans le hall, effectivement. Beaucoup d'effervescence, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress pour les organisatrices qui sont face à moi, les collègues professeurs et professeurs documentalistes. Madame Manelli, vous pourriez nous parler un petit peu du contexte et du projet?
Oui, bien sûr. Merci, Monsieur Martin, à vous de votre présence et puis du soutien de Canopé, à la fois pour cette action pédagogique comme pour d'autres actions d'ailleurs conduites sur l'établissement. C'est un projet qui a tenu toute l'année, qui a été un projet qui a rassemblé deux classes de quatrième. Et félicitations, je tiens aussi à commencer par féliciter aussi les élèves. Les applaudissements parlent d'eux-mêmes. C'est un travail fabuleux et vous avez montré votre professionnalisme. On sent que les acquis proposés, les contenus proposés par les professeurs tout au long de l'année ont été profitables. Ça a été à la fois une belle expérience et puis je crois au travers des sourires et puis de la façon dont je vous ai vu que vous avez beaucoup apprécié aussi ce temps-là. Alors ce projet, il a été conduit par plusieurs enseignants de l'établissement, Madame Grandpierre, professeure documentaliste, Madame Bourdalet, professeure d'histoire-géographie, Madame Bezot, professeure de français, sont vraiment les trois professeurs investis majoritairement sur ce projet. Et puis grâce également à un appel à projet et un projet qu'on a déposé auprès de la DAC, on a pu avoir bien entendu l'intervention de Madame Ancena du journal Globule qui a accompagné la classe pendant toute l'année. Donc c'est un travail qui est important au-delà de la technicité que l'on a vu, au-delà du travail bien entendu qui permet de rassembler des personnes que l'on interviewe. C'est tout, mais c'est vraiment ce qui était vraiment très important, de pouvoir valoriser aussi les actions qui ont été menées au sein de l'établissement. Le thème de la solidarité, le thème de l'égalité homme-femme sont des thèmes qui ont été portés aussi par d'autres actions éducatives. Et vous avez su, grâce au travail, valoriser et faire coordonner l'ensemble de ces actions. Félicitations à vous.
Alors on commence, non? Alors comment vous sentez-vous après cette expérience radiophonique qui fut assez intense?
C'est fait. C'est bien fait. Ouais, on est très satisfaite du déroulement. Voilà, on a trouvé que les élèves avaient été très sérieux, que ce soit au niveau de la technique ou l'enchaînement au micro. Voilà, il y avait du stress chez les élèves, mais on trouve qu'ils s'en sont bien sortis. Voilà, avec un peu de flottement au début, mais c'est normal. C'était une première pour nous aussi. Voilà, on est vraiment très très contente du travail terminé.
Oui, bravo. C'est comme je vous disais en off. C'est vrai que on accompagne pas mal de radios de scolaires, collèges et lycées. C'est la première fois que je vois deux classes travailler sur un projet comme celui-là. C'était vraiment un gros travail de coordination. Chapeau.
Merci.
Est-ce que sur le contenu, la préparation, l'organisation de l'année scolaire, j'imagine que c'est beaucoup de travail et beaucoup d'anticipation.
Oui, beaucoup de travail, beaucoup d'heures aussi, beaucoup de précipitation un peu sur la fin aussi, parce que il a fallu boucler pour présenter quelque chose qui soit quand même concret et qui soit positif pour les élèves. Mais je crois qu'ils sont quand même contents quand je les regarde. Ils ont l'air contents de ce qu'ils ont fait. La technique s'est très très bien débrouillée, bravo. Et puis au micro, malgré le stress, ils s'en sont bien sortis. Donc, je les félicite et puis oui, c'est fini.
C'est fini. Ouf. Et si c'était à refaire, c'est toujours la question.
Oui, bien sûr.
Sans problème.
Oui, bien sûr.
Voilà. Peut-être pas avec deux classes, voilà, parce que c'est effectivement au niveau de la coordination des travaux, ça a été un peu lourd, hein, mais avec une classe sans doute, ouais. Ouais.
Rendez-vous l'année prochaine.
C'est ça. Rendez-vous l'année prochaine.
Et je redis merci effectivement au Canopé de nous avoir prêté le matériel, parce que sinon cette émission n'aurait pas été possible. Voilà.
Oui,
et
puis
votre aide.
Bah de rien, puis ça fait moi plaisir de former aussi les élèves pour qu'ils soient autonomes, parce que là vous avez tout fait, quoi. Ouais. Vous avez tout fait.
Oui, et puis du coup on en profite aussi, bon vous avez entendu les pubs pendant l'émission, mais on en profite pour vous annoncer la sortie du Romilly Express numéro 3, donc qui a été, donc on a fait les dernières publications hier, donc voilà, il sera distribué dans l'établissement la semaine prochaine, et donc les gens qui viendront aux portes ouvertes de l'établissement la semaine prochaine pourront également l'avoir à ce moment-là. Et merci à Madame Ancena, voilà, ça fait 3 ans qu'on travaille avec elle, c'était un plaisir, et voilà, heureusement qu'elle était là, merci.
Voilà, merci Radio Web 2R, c'était Radio Éphémère, on va appeler ça, donc on va couper l'antenne, merci.
Web 2R.